Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission que nous vous proposons, alors que vous le savez, le mouvement social à Radio France en est à son 13e jour, et qu'une partie de l'équipe Du Grain à Moudre est en grève ce mardi. La proposition de loi visant à lutter contre le système prostitutionnel verra-t-elle jamais le jour? Et si oui, dans quel état? On peut se poser la question, à en juger par la lenteur du parcours législatif de ce texte et par les modifications structurelles dont il fait l'objet. Ainsi, hier soir, les sénateurs ont-ils adopté un texte profondément remanié par rapport aux intentions originelles? Le délit de racolage qui criminalise les prostituées est maintenu alors qu'il devait disparaître. La pénalisation des clients, elle, est supprimée alors qu'elle devait intégrer le nouvel arsenal juridique. Pour le Sénat, récemment repassé à droite, c'est sans doute une façon de marquer son appartenance à l'opposition, mais c'est aussi une manière de dire que la meilleure façon de lutter contre les dérives du système prostitutionnel, c'est de s'en prendre à l'offre, donc aux prostituées, plutôt qu'à la demande, donc aux clients. Les acteurs de terrain dénonce ce revirement sans pour autant être unanime sur la question de la pénalisation des clients. La Suède, premier pays à avoir mis en place ce système en 1999, est ainsi à la fois érigée en modèle et en contre-modèle au nom, à chaque fois, de la défense des prostituées. Un débat qui illustre bien la difficulté à trouver en France, pays abolitionniste, un consensus sur ce sujet. Alors prostitution, la pénalisation peut-elle avoir des effets pervers? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, Jeannine Mossulaveau, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de recherche émérite au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. Vous venez de publier aux éditions Dalloz un petit livre, petit par sa taille, puisqu'on peut le glisser facilement dans sa poche, qui s'intitule « La prostitution », 300 pages, qui éclaire en particulier le débat que nous allons avoir ce soir. Vous avez par ailleurs dirigé l'an dernier aux éditions Robert Laffont le dictionnaire des sexualités. Pour discuter et débattre avec vous ce soir, Yves Charpenel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au magistrat, vous présidez la fondation CEL qui combat l'exploitation sexuelle. Vous avez entamé des démarches visant à l'abolition de la prostitution et dans ce cadre, vous opposez à la reconnaissance de la prostitution comme métier ainsi qu'à sa réglementation. C'est ce qu'on peut lire notamment sur le site de votre fondation. Thème sur lequel vous ne serez peut-être pas totalement d'accord avec notre troisième et dernier invité, Jean-François Corti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, directeur des opérations France de Médecins du Monde, organisation qui s'est prononcée récemment avec d'autres associations telles que AIDS, par exemple, ou ACT UP, contre la pénalisation des clients au nom de la protection des prostituées. Alors, je le disais, c'est une demi-surprise, mais en tout cas, hier soir, les sénateurs ont rétabli dans la proposition de loi le délit de racolage. Avant d'examiner avec vous l'impact attendu de cette décision, je voudrais déjà avoir votre point de vue sur, à votre avis, le pourquoi de cette décision. Est-ce que vous y voyez avant tout une décision d'ordre politique, Jean-François Corti? Est-ce que, je le disais, les sénateurs ayant changé de majorité, enfin en tout cas la droite étant redevenue majoritaire, c'est avant tout une façon pour eux de montrer qu'ils existent, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond et qui témoignerait d'un débat beaucoup plus fort sur cette question au sein de la classe politique française?
Alors écoutez, c'est une grande question de savoir si effectivement il y a des enjeux politiques et partisans sur cette problématique. Ce qui est vrai, c'est que Médecins du Monde, nous avons plus de 7 programmes en France spécifiquement dédiés aux personnes qui se prostituent, avec près de 70 projets au global en métropole, comme objectif de travailler sur la lutte contre les inégalités de santé. Et ce qui est vrai, c'est que ce qu'on voit dans la vraie vie, je dirais, au quotidien, c'est des personnes qui vivent dans des logiques de survie, bien souvent, qui sont confrontées à la violence et qui, parfois, n'ont pas d'autre alternative que pouvoir faire de la prostitution. Et
donc là, puisque ma question elle est sur la compréhension de cette décision politique, ça veut dire que pour vous, les élus manquent de connaissances de ce qui se passe sur le terrain?
Ce que m'évoque cette décision, comme notamment aussi l'avis de, on va dire, de l'Assemblée nationale qui est allée dans le sens de la pénalisation des clients, c'est que, de notre point de vue, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les élites politiques et ce que nous, nos équipes, voyons sur le terrain. Et donc, une forme de confrontation entre ce qu'on pourrait appeler certaines postures morales, mais qu'on va débattre, et la vraie vie, ce que l'on côtoie au quotidien, dans un contexte où, et on y reviendra, il y a une diversité d'acteurs, des personnes qui se prostituent, qui est très importante et qui fait qu'il est difficile de pouvoir imaginer calquer des mesures radicales correspondant à une vision assez uniforme de la prostitution.
Jeannine Mossieu-Lavaux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des clivages partisans assez nets sur la question de la prostitution? Disons qu'il y aurait une vision de gauche et une vision de droite, ou bien est-ce que c'est plus complexe?
C'est beaucoup plus complexe que ça. Puisque cette proposition de loi, telle qu'elle a été d'abord votée en 2013, en décembre 2013...
C'est dire si le processus législatif est long.
Oui, si c'est long. Je veux dire qu'elle a été proposée, et notamment avec cette mesure qui, bon, moi je le dis d'emblée, la pénalisation du client me semble totalement aberrante, notamment pour les raisons qui viennent d'être dites, c'est-à-dire que...
Et qu'on va vraiment creuser dans le cours de l'émission.
Ça fragilise encore plus les processus. Et enfin bon, c'est très dangereux pour eux, pour elles et pour eux, puisque il y a deux sortes de prostituées. Mais je voudrais ajouter simplement un mot sur le débat et le vote d'hier soir, parce que ce retour qui était vraiment inattendu à la pénalisation de la prostituée ou du prostitué pour racolage passif, ça a été voté à une voix de majorité. Une voix. Et parce que la droite, l'UMP, a demandé un scrutin public. Et donc, chacun, représentant son groupe, est arrivé avec ses 100 et quelques bulletins fictifs, mais enfin, ses voix. Et il y a eu une voix de différence entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et je pense que si l'UMP a demandé le scrutin public et a essayé d'avoir ce résultat, c'était simplement parce qu'il fallait montrer qu'on voulait rétablir la loi Sarkozy de 2003, dont on sait tout le mal qu'elle avait fait.
Ouais. Mais peut d'ailleurs imaginer qu'au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle aura lieu, le texte initial devrait a priori être rétabli. Yves Charpenel, est-ce que vous avez été surpris par ce vote des sénateurs hier soir et ce rétablissement du délit de racolage? Enfin d'ailleurs, on dit rétablissement, ce n'est pas vraiment un rétablissement, puisque finalement le délit de racolage existe toujours.
Non, je n'ai pas été vraiment surpris, parce que j'ai participé comme d'autres à la réflexion des sénateurs, on a bien vu que cette proposition de loi, qui était absolument transpartie, puisqu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des partis représentés, dans toutes ses dispositions. On a bien vu que le contexte politique avait changé depuis, que 18 mois se sont passés sans qu'on ait réduit ce que vous avez appelé le décalage, et qui me paraît en effet une réalité, puisque nous travaillons à la Fondation Celle aussi avec les associations de terrain, et c'est vrai que ce qu'on observe dans la réalité nous permet de dire, pour être aimable, que ce qui a été voté hier n'a pas donné beaucoup de grain à moudre à la lutte contre le système prostitutionnel, puisque l'équilibre de la proposition de loi, on discutera des côtés positifs, négatifs, contestables, mais en tout cas, il n'y a plus d'équilibre du tout, puisqu'on est revenu en fait à la situation de 2003, qui était décrite par tout le monde comme étant insatisfaisante.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas une logique politique? Puisque moi, dans ce que j'ai lu sur cette proposition de loi, et le fait qu'on instaure une pénalisation des clients, cette mesure a été présentée comme une forme de contrepartie à la suppression du délit de racolage. À partir du moment où on ne pénalise plus les clients, est-ce qu'il n'est pas logique politiquement de réinstaurer ce délit de racolage, Jean-François Corti?
Écoutez, il y a tout un tas de rapports objectifs produits par des institutions qui sont rationnelles et qui sont impartiales. Je pense au Conseil national du SIDA, je pense au Conseil national de lutte pour la défense des droits de l'homme, à des rapports des Nations Unies qui tous unanimement disent que instaurer une pénalisation de prostituées qui sont bien souvent des personnes en grande vulnérabilité et donc être dans des logiques de politique répressive n'aura que des effets négatifs pour ces personnes et n'ira sûrement pas dans le sens de la protection de ces personnes.
Ça veut dire, par exemple, qu'il y a des études qui montrent que le délit de racolage a plutôt eu pour effet d'augmenter les risques d'infection au VIH.
On parle du fait que ce dédracolage, qui potentiellement était censé protéger les personnes, a eu des effets secondaires. Et nous avons mis aussi en avant des enquêtes avec nos programmes à Paris et à Nantes, qui montrent bien combien ce dédracolage, lorsqu'il est utilisé parfois à mal escient par notamment les forces de l'ordre, induit une perte de droits pour des personnes. On est dans des situations où parfois, alors c'est pas partout, on peut avoir un abus de l'utilisation de ce dédracolage avec des arrestations répétées qui mettent la pression sur les personnes qui se prostituent et qui, d'une certaine manière, engendrent une forme de pression très forte et qui entraîne quoi ? Des personnes qui vont se retrouver dans des lieux beaucoup plus retranchés, qui vont être dans des conditions d'insécurité plus fortes, des associations qui vont avoir des difficultés pour les suivre et surtout, lorsqu'elles sont en situation de dangerosité, elles ne vont plus avoir le réflexe d'appeler les forces de l'ordre pour les protéger, ce qui est normalement un devoir, parce qu'elles sont dans un climat de défiance avec des forces de l'ordre qui, souvent, sont amenées à les arrêter régulièrement du fait du contexte juridique. Et ça, c'est une perte de droit. Et c'est ce que l'on observe sur le terrain et ce que nous avons documenté dans des rapports très objectifs.
Est-ce que Yves Charpenel et Jeannine Mossulavo partagent ce constat, Yves Charpenel ?
Alors, le résultat,
sur le racolage,
sur le racolage,
sur la pénalisation des clients, sur le racolage.
Je vous parlais là en juriste. Le racolage, ça ne marche pas. Je rappelle que quand ça a été voté, le racolage passif, il s'était fait notamment pour permettre d'avoir un moyen de pression sur les prostituées pour qu'elles donnent des renseignements sur leurs trafiquants. Le résultat n'a jamais été à la hauteur de cette ambition et on sait à quoi il servait, ce délit de racolage, qui honnêtement n'a jamais permis des condamnations définitives puisque les quelques prostituées condamnées pour racolage passif qui ont fait des recours les ont toujours gagnées.
Il y a pourtant eu entre 2012 et 2010, en 2012, alors ça c'est, sont des chiffres qui viennent de l'Office central de la répression de la traite des êtres humains, en 2012, 52 réseaux internationaux de prostitution démantelés, en 13 de plus qu'en 2010.
Mais
il ne faut pas y voir un effet
aucune relation de ce délit de racolage. Pour suivre ces dossiers. Mon association, depuis 60 ans, se constitue partie civile dans ces dossiers de traite organisée. Il n'y a jamais eu un cas où un délit de racolage a généré un renseignement. Ce qui arrive en général, c'est des écoutes dans des affaires criminelles ou des malheureuses survivantes qui sont tellement au bout du bout qu'elles vont révéler des faits. Mais jamais sous la menace, j'allais dire, assez pathétique, de dire, contre la menace de mort qu'elles subissent de leurs trafiquants, je vais éviter une amende de quelques centaines d'euros. Ça n'a pas de sens. Donc ça ne marche pas.
Donc mesure inefficace d'un point de vue de la répression et dangereuse du point de vue de la sécurité des prostituées, Jeannine Mossulavo.
Très dangereuse parce que moi j'ai fait co-diriger une enquête sur la prostitution à Paris, justement après la loi Sarkozy qui justement désignait ce racolage passif comme un délit. Et on arrivait à une situation complètement incroyable, qui était que ce délit potentiel, en tout cas cette LSI de 2003, elle poussait les prostituées à aller, disons, exercer leur activité, donc vendre des services sexuels, dans les rues pas éclairées, dans les parkings, sur les aires d'autoroute, dans les forêts autour de Paris, donc des endroits où les associations qui ont des cars, des camions aménagés et qui font des tournées pour justement les aider, leur proposer des préservatifs, des seringues propres, du thé, du café et des conseils administratifs quand elles en ont besoin, et qui sont subventionnées par exemple pour Paris, pour ce que j'ai vu par la mairie de Paris, ne pouvaient pas les atteindre, puisqu'elles allaient de plus en plus loin dans des endroits à peu près inaccessibles et où ces camionnettes n'avaient pas la possibilité d'aller un petit peu les aider. Donc c'est totalement contradictoire de prendre des mesures de ce type-là.
Et Charpenel,
quand même, seulement de la contradiction, ce problème de refuge des prostituées dans des lieux obscurs ne date pas de la loi sur la sécurité intérieure. Ce phénomène a commencé bien avant et croyez-moi, d'expérience, le plus grand danger que courent les prostituées, c'est pas la loi sur le racolage qui est inefficace, c'est la prostitution elle-même et les violences qu'elle entraîne. Donc c'est vrai que le délit de racolage a envoyé un signal qui est contestable et qui n'a pas produit ses effets, sinon qu'il a en effet fragilisé des gens qui sont en très grande vulnérabilité. Donc sur ce point-là, je pense qu'on peut arriver à un consensus pour dire que rétablir le délit de racolage n'a pas de légitimité rationnelle.
Alors, consensus sur cette question du rétablissement du délit de racolage, s'agissant à présent de la pénalisation des clients, donc qui, on l'imagine, reviendra dans le texte de la proposition de loi, mais qui a donc été supprimée hier soir par les sénateurs. Alors là, finalement, vous, ce que vous dites, Jean-François Corti, à Médecins du Monde, c'est que les effets négatifs qui étaient liés au délit de racolage, ce sont à peu près les mêmes qui sont attendus si on pénalise les clients, c'est-à-dire que là aussi, on fragilise et on insécurise les prostituées, c'est ça ?
Les effets seront pires.
Ce qu'il faut imaginer, c'est que, et ce qui est assez intéressant, je dirais, dans la vraie vie sur le terrain, c'est qu'on observe déjà des effets de potentiellement cette loi, si elle passe, la pénalisation, notamment, enfin une disposition à la pénalisation des clients, on les observe déjà ces effets sur le terrain depuis début 2014, au lendemain du vote de l'Assemblée nationale. C'est dans l'air du
pourtant,
temps.
Pourtant, la loi n'est pas effective.
Non, là, mais c'est ça qui est aussi inquiétant et intéressant à analyser et à décrire. C'est que nous voyons déjà sur le terrain des stratégies de contournement de la part des clients, de la part des personnes qui se prostituent et qui déjà vont... considèrent que ce dispositif est en place, crée une forme de peur qui va entraîner les mêmes effets, c'est-à-dire des personnes qui vont se retrouver dans des situations plus reculées, à distance de lieux de protection potentiels, à distance des associations qui pourraient les aider. Ils font...
juste pour qu'on comprenne bien Jean-François Corti, c'est-à-dire les clients préfèrent aller dans des endroits peu visibles et donc ça oblige les prostituées à aller elles aussi dans des endroits de moins en moins visibles.
Exactement,
c'est
des prises de rendez-vous dans des lieux plus retranchés, plus invisible, et donc ça cautionne une forme de prostitution informelle, invisible, avec encore une fois une difficulté de pouvoir, si nécessaire, protéger ces personnes qui pourraient être soumises à des violences. On voit apparaître davantage d'intermédiaires aussi, et puis effectivement, on voit exploser la prostitution sur Internet, qui n'est pas simplement due à ça, qui est aussi liée à un phénomène technologique qui évolue, mais ça contribue, ce dispositif de pénalisation des clients, à rendre encore plus invisible la prostitution, sans l'abolir.
Alors vous, Yves Charpenel, qui présidez donc cette fondation, celle qui a aussi des retours de ce qui se passe sur le terrain, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Médecins du Monde. Vous vous dites qu'il faut quand même pénaliser les clients.
Mais c'est même une nécessité si on veut faire quelque chose.
Y compris en prenant le risque de fragiliser les prostituées.
Attendez, mais elles sont fragilisées déjà. Je crois que penser qu'une loi sur la pénalisation va fragiliser, moi je me réjouis de voir qu'un certain nombre de gens qui réfléchissent aussi ont rejoint cette position. Je pense notamment au fondateur de Médecins du Monde qui vient de signer une déclaration où il est favorable, du point de vue de médecin qu'il est, à la pénalisation du client. Moi j'y suis favorable parce que nous parlons de quoi ? On ne parle pas de morale ici. On parle de marché criminel dans lequel il y a l'offre et la demande. Vouloir lutter contre un marché en attaquant qu'un des aspects n'a aucun sens. C'est une hypocrisie complète. On a vu d'ailleurs les débats au Sénat. J'attends encore un argument rationnel pour expliquer pourquoi on peut criminaliser celui qui vend et pas celui qui achète. Qu'on pénalise pas celle qui est vendue, c'est du bon sens, on vient de le dire. Mais là, franchement, on a l'exemple des pays qui ont commencé à expérimenter. Et là, en parlant des analyses qui ont été faites, non pas par des groupes de pression pour ou contre, mais par des organisations internationales, on voit bien que le premier
effet... On
pense par
exemple à la Suède,
la Norvège, et puis on espère maintenant le Canada qui vient d'adopter cette loi, pour des raisons très très limpides et rationnelles, qui est de dire qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène perçu comme dangereux sans l'attaquer de manière globale.
Et qu'est-ce qu'on constate dans ces pays ?
Eh bien qu'il y a d'abord une chute évidemment du nombre d'actes de prostitution et surtout le plus intéressant, c'est un des objectifs qui était visé et qu'on aimerait voir arriver en France avec cette loi, c'est en fait la diminution en quelque sorte du fantasme sur la banalisation de la prostitution chez le client potentiel. Parce que le client de la prostitution d'aujourd'hui, c'est pas le vieux monsieur décoré et pervers, c'est à peu près n'importe qui. Et donc c'est des gens qui ne perçoivent pas la gravité de l'acte qu'ils font en achetant un service sexuel.
Alors il me semble que finalement on a une approche qui est une approche pragmatique du côté de Médecins du Monde et une approche qui est peut-être plus sur la question des principes de votre côté, Yves Charpenel. Janine Mossula, vous nous avez dit en début d'émission que vous étiez opposé à la pénalisation des clients, mais au-delà, est-ce que ce débat vous paraît très significatif du débat français sur ce sujet de la prostitution ?
Tout à fait, parce que c'est un sujet dit sensible, au point que si vous assistez à des réunions féministes, vous avez des opposants, des partisanes, je veux dire, ce mouvement féministe qui avait, disons, des buts communs, se déchire sur cette histoire. Donc c'est vraiment un problème qui se pose un peu partout, y compris à l'intérieur de chacun des partis, parce qu'au Parti Socialiste qui a lancé cette histoire, c'est quand même des féministes du Parti Socialiste qui ont lancé cette proposition de loi à l'origine. Il y a des oppositions aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça, c'est des oppositions qui passent dans toutes les organisations, je pense. Non, ce que je voudrais dire, qui me semble important, c'est que l'argument des partisans de la pénalisation des clients, c'est les prostituées sont des victimes, il faut les aider à s'en sortir, il faut vraiment faire cesser tout ça, etc. Or, qu'est-ce qui va se passer si on adopte la pénalisation du client ? Je vais bien croire, comme le dit Charpenel, que toutes les prostituées étrangères sont aux mains, disons, de réseaux. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on en reparlera après parce que bon, y a autre chose. Mais qu'est-ce qui va se passer si on adopte cette pénalisation du client, mais si vraiment elles sont sous la coupe de réseau, le réseau va les déplacer en Italie, en Espagne, dans un autre pays où il n'y a pas cette pénalisation du client. Donc, ça veut dire que les seules qui seront embêtées en France, ça va être celles qui restent et qui sont plus ou moins dépendantes pour certaines, etc. etc. Donc, je pense que là, le but, aider les victimes, ça ne marche pas parce que si vraiment elles sont sur la coupe de réseau, elles vont être emmenées ailleurs.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Prostitution, la pénalisation peut-elle avoir des effets pervers ? C'est le thème de notre débat ce soir avec Jeannine Mossulaveau, Yves Charpenel et Jean-François Corti. Peut-être une réaction à ce que vient de dire Jeannine Mossulaveau. D'ailleurs, peut-être une réaction aussi à une notion qui est celle de victime. Parce qu'effectivement, ça conditionne toute la réflexion qu'il peut y avoir autour de la prostitution. Doute. Les prostituées sont... Quoi ? Sont toutes des victimes ? Sont essentiellement des victimes ?
Sont essentiellement des victimes. Je crois que c'est un des grands apports de la proposition de loi, c'est d'inverser le regard sur ces personnes en les considérant non pas comme des profiteuses qui, pour peu de peine, obtiennent plus d'argent qu'une honnête travailleuse, en disant non, attendez, c'est pas ça la réalité. Parlons de pragmatisme, des gens qui sont dans cette situation. D'abord, vous n'en trouvez pas beaucoup qui sont favorables aux clients, je peux vous dire. Globalement, la réalité, avant même qu'on vote cette loi, que j'espère bien, on va voter, et puis surtout qu'on appliquera, parce que si on la vote sans l'appliquer, ce sera un débat pour rien une fois de plus. Mais réellement, aujourd'hui, les réseaux sont des gens pragmatiques. Ils promènent littéralement ces malheureuses d'un pays à l'autre. Les personnes que nous observons, nous, ont pratiquement toutes fait le tour opérateur à travers l'Europe. Pays abolitionniste ou réglementariste, c'est la même chose pour elles. Elles sont toujours exploitées. Et donc, c'est pas parce que d'autres pays n'adopteront pas cette disposition qu'il faut que la France soit open bar pour les exploiteurs.
Est-ce que vous diriez, Yves Charpenel, que les prostituées sont d'autant plus victimes que leur sociologie a considérablement évolué au cours des dernières années, bien qu'aujourd'hui, sûr. On a une large majorité de ces prostituées qui sont d'origine étrangère.
C'est une immense majorité pour une raison simple. C'est que les trafiquants, pour gagner de l'argent, ils en gagnent beaucoup, ont besoin d'exploiter des personnes les plus vulnérables possibles. Ce sont les Inuits au Canada, les émigrés clandestins aux États-Unis, les personnes des Balkans, de l'Afrique subsaharienne, etc.
Alors Jean-François Corti, vous nous dites depuis le début, alors nous finalement Médecins du Monde, on est dans la vraie vie, on est sur le terrain, on a une approche très pragmatique, mais la question de savoir si les prostituées sont des victimes, ça oblige aussi peut-être à aller au-delà de cette simple approche pragmatique.
Oui, enfin ce qu'on voit c'est qu'il y a une diversité des personnes qui se prostituent, des acteurs. On a effectivement des personnes en grande précarité souvent, des personnes françaises, des personnes étrangères, des personnes en situation administrative précaire ou des personnes qui sont avec des papiers. Beaucoup de femmes, bien sûr, quelques hommes, des aussi transgenres, et puis une contrainte qui varie selon les personnes. Mais effectivement, on a une majorité de personnes, de femmes en grande précarité, et qui sont plus ou moins soumises, encore une fois, à des contraintes, sachant que selon l'origine des pays, entre les Chinoises, entre les Nigérianes, il n'y a pas le même mode de pression financière, notamment vis-à-vis des potentiels systèmes qui les auraient fait venir jusqu'à chez nous. Ce que je veux dire, c'est que si on reprend l'exemple suédois qui est mis en avant, quand même, si effectivement le nombre de prostituées visibles a diminué, la prostitution informelle, elle existe toujours, elle est toujours présente avec des intermédiaires, avec la possibilité d'accéder via Internet sur des personnes. Donc le phénomène prostitutionnel n'a pas disparu. Ce que je veux dire, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on a vu au moment des débats à l'Assemblée nationale des alliances improbables entre certaines féministes avec des mouvements plutôt d'obédience mystique religieuse s'associer pour défendre notamment la pénalisation des clients, qui, de mon point de vue, est davantage l'expression d'une vision assez moraliste de notre société plutôt que l'expression d'un véritable, une véritable envie de protéger les personnes.
Il y a, Est-ce qu'on peut échapper à cette dimension moraliste sur un tel
sujet ?
Oui,
on peut l'échapper si on change de point de vue dans l'approche de la problématique. De notre point de vue, la prostitution est un phénomène sociétal global. Quand je dis ça, je ne soutiens pas ou je ne suis pas pour ni contre la prostitution. Je dis que c'est un phénomène sociétal global qui implique des questions d'immigration, de sécurité, d'accès au travail, d'accès aux droits, d'inégalité homme-femme, effectivement. Alors, on ne remet pas en question le fait qu'il y ait ce problème en France d'inégalité homme-femme, qui est un sujet sur lequel il faut se battre. Mais quand on parle de système prostitutionnel, de prostitution, il faut l'appréhender de manière globale, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à aider les personnes à s'en sortir. Et donc, c'est être force de proposition, c'est des programmes de lutte contre la pauvreté, et aller dans le détail de ces questions-là. Donner des papiers à des femmes, souvent, en sans-papiers, en situation de grande précarité, ça leur permettra d'avoir accès au travail, donc de pouvoir diversifier la ressource financière et d'avoir une aisance pour pouvoir aller vers autre chose que la prostitution. Ce sont des femmes qui, bien souvent, sont dans une logique de survie. Aider à l'ouverture de l'aide médicale d'État, ça va leur permettre de pouvoir se soigner plus précocement. Et moi, j'aimerais bien entendre des parlementaires qui disent qu'ils veulent protéger ces personnes de droite ou de gauche. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'aide médicale d'État ou de donner des papiers à des gens, alors là, il n'y a plus personne. Sauf que ce sont des mesures pragmatiques comme ça qui vraiment permettront à des personnes de se sortir de la grande précarité et de la prostitution.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jeannine Mossieu-Laveau, pour dire que finalement, peut-être que le débat français, mais je ne sais pas d'ailleurs comment il se passe ailleurs, mais sur la prostitution est peut-être un peu trop un débat qui porte sur des questions de morale, même si on n'est plus sur les questions de bonne mœurs aujourd'hui, on est plus sur des questions de défense finalement de la dignité, alors la dignité des femmes, puisque ce sont quand même essentiellement des femmes qui sont touchées par ce phénomène, et pas assez sur des questions de choix de société, de politique sociale. Est-ce que c'est ce qui manque dans ce débat sur la prostitution ?
Moi, je pense que ça manque beaucoup, et que, notamment, je reviens sur la question des papiers que vous évoquiez, c'est vrai que chaque fois que quelqu'un essaye de dire, finalement, pour que ces femmes puissent s'en sortir, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus, comme c'est encore, ça sera de plus en plus le cas, c'est-à-dire envoyées dans un autre pays si on a une législation, disons, plus répressive, on pourrait leur donner la possibilité de rester ici, mais ça supposera des papiers.
Mais chaque fois, ce qu'on va vous rétorquer, c'est que ça va créer un appel d'air et que vous allez avoir de plus de...
Chaque fois, ce qu'on vous dit, c'est que ça va créer un appel d'air, et ça, c'est un argument qui a été utilisé aussi bien par la droite que par la gauche, ça va créer un appel d'air, donc ne faisons surtout pas ça, alors que ça serait une des mesures qui pourrait aider des femmes qui aimeraient justement quitter la prostitution. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas rêver, je pense sûr qu'on obtiendra ce type de choses.
Est-ce que c'est ça l'objectif, Charbonnel ? C'est-à-dire de donner en tout cas la possibilité à celles qui le souhaitent de quitter la prostitution. Et est-ce que agir sur ce terrain très, très politique et social qui consiste, puisqu'on a affaire à une population essentiellement d'origine étrangère, de procurer plus facilement des papiers, peut-être plus facilement un travail, un logement, d'avoir des facilités fiscales, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut travailler
d'après vous ? Oui, il y a deux choses qu'il faut dire. Là, je rejoins complètement les intervenants ici sur le fait que ça, c'est un pilier majeur de la proposition de loi qui est passé à la trappe dans le débat, qui est l'idée d'un parcours de sortie de prostitution sans rentrer dans les origines, mais qui n'est pas fondée aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'argent et qu'effectivement, on craint la porte ouverte. On a connu ça avec le droit d'asile. Aujourd'hui, on sait contrôler. Et il n'y a pas de raison de ne pas penser qu'on ne sera pas capable de contrôler l'allocation de droits à des personnes sans tomber dans, l'escroquerie aux faux papiers. Mais la deuxième chose qu'il faut dire quand même, c'est que la pénalisation des trafiquants et la pénalisation des clients, ce n'est pas pour le plaisir de pénaliser. On n'est pas chez Michel Foucault, on n'est pas dans la perversité de vouloir punir. C'est pour assécher un marché criminel dans un seul but, pas se faire plaisir, c'est éviter qu'il y ait des personnes exploitées. C'est ça la finalité de ces mesures.
Oui, mais c'est là où il y a peut-être un débat, c'est-à-dire que le pragmatisme revient sans forcément éluder les questions sociétales ou politiques globales. C'est de dire qu'il y aura des stratégies de contournement lorsque vous êtes face à des personnes qui sont dans les logiques de survie, qui ont besoin de bouffer et qui n'ont pas d'autres alternatives. Donc, Médecins du Monde défend ce qui est dit dans le projet de loi, à savoir le renforcement de la lutte contre la traite, contre les mafias, contre les violences, en disant d'ailleurs qu'il y a un arsenal juridique relativement bien développé déjà, il faut se mettre davantage de moyens, plus de coopération à l'échelle européenne, on le fait bien sur le terrorisme, pourquoi ne pas renforcer davantage justement nos efforts et nos capacités de pouvoir lutter contre ces dispositifs, ces mafias et autres réseaux qui utilisent la violence, qui utilisent des êtres humains qui font du trafic d'êtres humains. Ça, on ne remet pas ça en question. On ne vit pas dans un monde enchanté à Médecins du Monde. On voit simplement sur le terrain que des stratégies de contournement font que des personnes en grande précarité auront besoin de bouffer à la fin du mois et que si elles n'ont pas d'autre alternative, elles ne pourront pas survivre. Et dans ces conditions, on redit aussi que dans le cadre de la loi, il y a un volet social qui a été développé. C'est ça qui est assez intéressant, je dirais, assez nouveau, en plus de la volonté d'abroger le délit de racolage passif, même s'il a été réintroduit par certains sénateurs. Ce volet social qui consisterait à accompagner les personnes qui le souhaitent vers une sortie de la prostitution mérite qu'on s'y arrête, qu'on en discute. Il y a encore beaucoup de débats sur comment on intègre ces personnes, beaucoup de débats sur les critères d'inclusion. Alors nous disons qu'il faut être assez souple, qu'il faut imaginer que certaines personnes ne pourront pas d'emblée arrêter du jour au lendemain la prostitution, ce qui est pour l'instant demandé. Il faudra une sortie progressive, un accompagnement, accepter l'idée qu'il va falloir tester ce dispositif, que dans la mesure où c'est compliqué, il pourra le réévaluer après plusieurs mois ou plusieurs années pour ajuster le tir, mais surtout faire en sorte que les personnes soient raccrocher un dispositif de droit commun pour tous, qu'il n'y ait pas un dispositif spécifique. On est sur une approche globale de la lutte contre la pauvreté, où justement les personnes en situation de grande précarité doivent bénéficier du même soutien social.
Et la prostitution fait partie. Jeanine Mossu,
à vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la proposition de loi, qui a été modifiée hier soir dans ce sens-là, elle va retourner à l'Assemblée nationale, et que je pense que malheureusement, elle risque d'être votée telle qu'elle avait été proposée avec quelques petits changements. C'est-à-dire, elle sera votée avec suppression du délit de racolage passif et puis pénalisation du client. C'est le risque. Bon, j'espère que ça ne sera pas comme ça, mais en tout cas, c'est le risque. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cette loi, on donne aux prostituées un double signal, qui est un signal totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'en supprimant le délit de racolage passif, on dit aux prostituées, écoutez, maintenant, ce n'est plus un délit, les flics ne viendront plus vous embêter, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Et puis, en même temps, on leur dit, oui, mais les clients, ils n'auront pas le droit de vous approcher. Parce que s'ils vous approchent, amende, etc. D'ailleurs, je me demande bien comment on va faire du flagrant délit sur ce problème. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, je pense qu'il y a une contradiction dans les termes totale de tenir ce double discours en même temps. Alors, moi, j'espère qu'il n'y aura pas de pénalisation du client. On va voir si, d'ici là, un certain nombre de gens se ressaisissent.
Mais il y a une contradiction, oui. Jeanine Mossu, oui. Mais en même temps, il y a une logique, puisque la France fait partie des pays qu'on dit abolitionnistes, c'est-à-dire qui sont censés prendre des mesures qui visent à l'abolition de la prostitution. Donc, pénaliser le client, ça va dans cette logique-là.
Oui, mais alors, à ce moment-là, vous êtes quand même dans une contradiction. Et puis, en même temps, la prostitution, aujourd'hui, en France, n'est pas interdite. On dit qu'elle est tolérée, etc. Mais, vendre des services sexuels, ça n'est pas interdit. Mais en acheter, c'est interdit. Alors, la logique est un peu... Et alors, je voudrais juste ajouter un point, parce que sur comment on va faire pour, justement, attraper ce client qui est vraiment le diable en personne dans tous les discours, eh bien, il y a eu, au moment où les commissions spéciales, que ce soit Assemblée, Sénat, etc., ont auditionné plein de gens, il y a eu une audition de la procureure suédoise Listam, qui a expliqué que c'était très facile d'attraper le client, parce qu'on est en cheville avec les hôtels, et quand quelqu'un vient de quitter une chambre après une heure ou deux heures, les policiers arrivent. Et si dans la chambre, ils trouvent plein de préservatifs dans la corbeille à papier, ils en déduisent que, effectivement, c'était un acte de prostitution. Donc, ils vont essayer de retrouver le monsieur. Alors, d'abord, je me demande comment on peut penser que les prostituées suédoises seraient assez stupides pour laisser plein de préservatifs dans une corbeille à papier, parce qu'elles savent quand même ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est le genre de conseil qui était donné dans les auditions. C'est public, c'est sur le site Assemblée Sénat.
Parce qu'on a un magistrat avec Émile Charpenel. Permettez
au procureur je ne suis pas vous suivre du tout. Il ne faut quand même pas sous-estimer Mme Listam et les procureurs en général. Je signale qu'effectivement, ce n'est pas compliqué.
d'intercepter des clients. Je vous signale qu'aujourd'hui, l'essentiel des commandes se fait sur Internet et que la traçabilité est extrêmement facile. Donc, ce n'est pas un problème technique. Si on a décidé de faire une politique, on le fera et c'est relativement simple, ça. Ce qui est compliqué, c'est d'accompagner les personnes pour sortir d'un système. La logique abolitionniste, elle n'est pas contradictoire. Depuis la convention de l'ONU de 1949, on sait que le principe même de la prostitution est une atteinte à la dignité des personnes, avec toutes les nuances que ça peut comprendre sur le degré de volonté ou pas qu'ont les personnes d'être dans ce système. La volonté politique était manifestée, en tout cas il y a 18 mois, par un accord transparti, de tout faire pour mettre un terme au développement d'un trafic insolent et qui est aujourd'hui quand même la deuxième forme de profit criminel dans le monde après le trafic de drogue, eh bien c'est d'attaquer l'offre et la demande.
Mais est-ce que du point de vue de la logique judiciaire qu'évoquait tout à l'heure Jeannine Mossulavo, c'est-à-dire de dire il faudrait peut-être commencer aussi par coordonner les politiques à l'échelle européenne, on sait bien qu'à l'échelle européenne, les pays ont des approches extrêmement différentes entre la Suède, la France par exemple et l'Allemagne, on n'a pas du tout la même approche, donc comment est-ce qu'on fait pour gérer cette question-là?
D'abord, c'est par des traités bilatéraux, on le disait tout à l'heure, il faut développer l'entraide, nous avons des exemples très précis, notamment de coopération franco-allemande, deux pays qui ont des lois complètement différentes en matière de proxénétisme.
L'Allemagne qui organise, on va dire,
néanmoins, on mène des actions efficaces ensemble contre des trafiquants, dès lors qu'on ne parle pas de proxénétisme et de trafic d'êtres humains. Donc on peut y arriver, on a notamment des instances européennes comme Europol et Eurojust qui assurent la coordination. Ça marche, c'est qu'un problème de moyens, puisque chaque année, la France démantèle une cinquantaine de réseaux. Dites-vous bien qu'on aurait deux fois plus de policiers, on en démantèlerait deux fois plus. Donc ça, c'est pas un problème de contradiction ou d'impossibilité, c'est un problème de volonté politique, mais une volonté politique qui ne doit pas être que répressive. On n'a pas parlé du dernier volet qui est pourtant fondamental, qui est l'information du public,
sensibiliser information et prévention. Public.
Voilà, ça c'est fondamental.
Jean-François Corti.
Je pense qu'il est aussi intéressant de revenir sur ce que disent et ce que pensent les personnes directement concernées. Il y a eu une enquête la semaine dernière qui est sortie d'acteurs, de sociologues, de chercheurs qui montre que...
L'université d'Aix-Marseille, c'est celle-là.
98% des personnes qui se prostituent sont contre la pénalisation des clients pour les raisons que nous avons évoqué. Donc, à un moment donné, il faut aussi que...
En même temps, Jean-François Corti, le résultat aurait été différent, ça aurait été une énorme surprise.
Oui, mais le résultat n'est pas différent et il est massif, il est à 98%. Oui, donc, ça montre bien le décalage qui existe entre ce qu'à un moment donné revendiquent certaines personnes et ce que le législateur ou l'élu va imaginer de ce qui serait bon pour les gens. Donc, écoutez davantage ce que veulent les personnes, c'est aussi peut-être faire un peu plus œuvre de respect vis-à-vis de la démocratie. Il faut écouter aussi certaines forces de l'ordre qui disent aussi, comme sur les arguments qui ont été évoqués, mais pratiquement, comment ça va se passer là, d'arrêter les clients? On va se mettre dans des situations complètement ubuesques, on va favoriser le climat de délation, c'est ça qu'on veut, sous prétexte de défendre des principes moraux. Donc il y a un vrai problème de mise en pratique concrètement de comment ça va se passer. Et puis, moi, je veux bien, mais on nous dit ils vont payer 1 500 € les clients et puis on va leur faire des stages d'information sur... Mais pour être dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure et pour pouvoir effectivement parler de la réalité de ces gens qui sont souvent en grande précarité, on l'a évoqué, c'est faire une information au global sur ce que vivent les migrants, sur la réalité des personnes en situation irrégulière, le fait qu'elles ont failli mourir plusieurs fois en traversant la Méditerranée, qu'elles ont failli mourir de soif en Libye, qu'elles viennent chez nous parce qu'elles essayent de vivre et d'avoir un projet de vie. C'est donc informer sur toutes les difficultés qu'elles ont à bénéficier de l'aide médicale d'État. C'est en France, dans nos programmes, 40% de retard de recours aux soins pour les personnes précaires qui n'arrivent pas à se soigner parce que c'est encore compliqué d'ouvrir l'aide médicale d'État, on ne connaît pas forcément les procédures, on ne maîtrise pas la langue. Avoir accès à la travail, c'est difficile pour tout le monde, encore plus pour des personnes qui viennent frapper à nos portes. Donc oui, informons la population globale sur ce qu'est la réalité des grands précaires, y compris les migrants, y compris les personnes qui se prostituent, et ayons des programmes à la mesure de cette réalité sociale plutôt que d'entrer sur des problématiques moralisantes avec on va pénaliser les clients. C'est ça qui va amener à bouffer aux gens qui crèvent de faim aujourd'hui.
Un mot pour finir, Jeannine Mossulavo et Yves Charpenel.
Alors, un mot, on parle des réseaux comme si toutes les prostituées étrangères étaient aux mains de réseaux, mais on ne voit pas, puisqu'on vient de parler des problèmes d'immigration, et je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites, qu'il y a une immigration féminine qui est du même type que l'immigration masculine, c'est-à-dire qui a recours à des passeurs pour venir dans un pays riche alors qu'elles sont dans des pays pauvres, et que tant qu'il y aura des pays riches et des pays pauvres, je ne vois pas comment on peut en empêcher des gens qui espèrent vivre un jour mieux, que ce soit des hommes qui sont prêts à vendre leur force de travail pour faire ce qu'on a besoin qu'ils fassent, ou des femmes qui se disent, finalement, la prostitution, ça permet de gagner un peu de sous que j'envoie à mon village, à ma famille, partout. il faudrait quand même prendre ça en compte.
Voilà, on voit à quel point ça dépasse très largement le voilà. débat politique national.
Bah, oui, Yves Charmoy, je vous invite à beaucoup de pragmatisme. Ouais. Allez regarder de près ce qui se passe sur le terrain. Et vous verrez que les réseaux, ils sont là, dans toutes les communautés. Et que là, c'est une vraie contrainte. Et que la France ne doit pas être un pays hospitalier aux gens qui exploitent la crédulité.
Personne ne dit qu'il ne faut pas lutter contre les réseaux.
Non, mais oui, non, sauf que c'est la réalité de la prostitution aujourd'hui, en immense majorité. Et la loi, elle n'est pas faite pour une minorité, elle est faite pour la majorité.
Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui se poursuit, hein, comme chaque jour, vous savez, sur notre site internet franceculture.fr, à la page donc du Grand Amour. Merci à vous Yves Charpenel, Jeannine Mossu-Lavaux. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage publié chez Dalloz, La prostitution, pour tout savoir sur le sujet, Jean-François Corti. Et ça vaut 3 €, voilà, comme vous le dites, donc ça ne coûte pas cher et ça ne prend pas beaucoup de place dans sa poche. Demain, de notre programme. Nous avons prévu de diffuser une des émissions enregistrées la semaine dernière au lycée Jacques Decour à Paris, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Émission intitulée « La presse peut-elle tout dire, tout écrire, tout montrer ?» Émission que nous devions diffuser la semaine dernière, mais qui n'a pas été en raison, vous le savez, du mouvement social à Radio France, qui en est déjà, je vous le rappelle, à sa 13e journée. Nous avons d'ailleurs prévu, et je le signale aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont posé la question, dans le cadre du Grand Amour, de consacrer dès que possible une émission à la question de l'avenir de la radio publique. Ce sera peut-être, on l'espère, la semaine prochaine. En attendant, je vous suggère de réécouter l'émission semi-clandestine proposée hier soir par la toute jeune Sparf. C'est une société qui réunit désormais les cache-pieds de Radio France. Le lien est sur la page de notre émission. C'est très facile à réécouter. Voilà, tout de suite, c'est le rappel des titres puisqu'il est 19h.